Bonjour à toutes et à tous. Nous écoutons les femmes aux Jeux Olympiques au XXIe siècle sur la radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Fatima Berdawin, votre présentatrice, et je vous amène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves du Collège Robert Doisneau Paris 20e autour de l'exposition Olympisme, une histoire du monde au Musée national de l'histoire de l'immigration. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler des sportives aux Jeux olympiques au XXIe siècle. Pour en parler, nous accueillerons l'historienne Véronique Servant. Nous écouterons ensuite le portrait d'athlète Marie-Zosé Perk, puis Deratu Tulu et Elena Meyer. Nous finissons cette émission avec une interview des élèves sur leur rapport au sport. C'est parti pour l'émission.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
C'est l'heure de l'interview. Bienvenue à nos journalistes Diariatou et Niagali. Nous recevons Véronique Servante. Nous allons vous parler des femmes aux Jeux Olympiques au XXIe siècle.
Je suis Niagali.
Je suis Diariatou.
Nous allons interviewer Véronique Seva. Bonjour Véronique Seva.
Bonjour.
Vous êtes historienne et coordinatrice des ressources pédagogiques au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Merci de votre présence parmi nous.
Merci de votre invitation.
Nous allons vous poser des questions sur la place des sportives aux Jeux Olympiques d'aujourd'hui.
Que pensez-vous de la place des femmes aux Jeux Olympiques?
Alors, j'ai essayé de faire une réponse courte. La place des femmes aux Jeux Olympiques est relativement insatisfaisante parce que, en fait, depuis l'existence des Jeux Olympiques jusqu'à aujourd'hui, les Jeux Olympiques de Paris seront les premiers à offrir aux femmes sportives la même place que les hommes. Donc on peut considérer que c'est quand même assez tardif, cette arrivée de l'égalité des hommes et des femmes qui peuvent participer aux Jeux Olympiques.
Qui est la première sportive noire aux Jeux Olympiques?
Pour répondre à cette question, j'ai été obligée de faire quelques recherches un peu rapides. Parce que cette sportive, je ne la connaissais pas. Et en fait, elle n'est pas non plus, dans mon souvenir, évoquée dans l'exposition. Elle s'appelle Alice Coachman et elle a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, au saut en hauteur. Il me semble que c'est la première sportive noire à être médaillée.
Quelles sont les qualités sportives d'un athlète?
Alors, sans doute les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Évidemment, il faut beaucoup de persévérance. Il faut aussi sans doute à la fois des qualités physiques et puis des qualités mentales. Et puis peut-être beaucoup de persévérance, beaucoup d'abnégation, c'est-à-dire de sens du sacrifice, savoir aussi sacrifier ses besoins personnels pour l'exploit sportif.
Ok, merci. Je passe les paroles à Niagali.
Est-ce que les femmes sportives sont payées comme les hommes sportifs?
Alors, c'est une bonne question. D'abord, il faut que vous sachiez que jusque le début des années 1990, les sportifs qui participaient aux Jeux Olympiques, et les sportives aussi, étaient amateurs. Ça veut dire qu'ils participaient sans gagner d'argent. Et ceux qui gagnaient de l'argent en faisant du sport, étaient souvent éliminés ou disqualifiés. On leur refusait l'accès aux Jeux Olympiques. Donc depuis, ça a changé, c'est relativement récent. Il y a fort à parier que, comme dans le reste de la société, les sportives féminines gagnent moins d'argent que les sportifs masculins qui ont une visibilité plus importante et qui, voilà, les Jeux Olympiques reproduisent exactement les mêmes rapports hommes-femmes que dans la société qui nous entoure.
Quelles sont les tenues de sport des sportives aux Jeux Olympiques ?
Ah, les tenues ? Alors, c'est un véritable enjeu à la fois financier, l'histoire des tenues, et aussi sportif. Un enjeu financier parce que, justement, on parlait tout à l'heure de qui gagne le plus d'argent entre les femmes et les hommes. La tenue est la marque de la tenue depuis que les Jeux Olympiques sont devenus professionnels. C'est une ressource importante de revenus. C'est-à-dire que, par exemple, si une sportive a signé un contrat pour avoir une tenue de chez Adidas ou de chez Nike, à chaque fois qu'elle gagne une médaille ou qu'elle apparaît à la télévision et qu'on voit la marque de ses vêtements, ça lui permet de gagner de l'argent parce qu'elle fait de la publicité pour la marque. Mais c'est aussi un enjeu sportif des tenues parce qu'aujourd'hui, on fait des recherches scientifiques sur la qualité de l'équipement sportif, des chaussures, des maillots de bain, des combinaisons, etc., etc., des perches. Parce que, en fait, en proposant des matériaux plus légers, plus résistants ou au contraire plus souples à l'air, ça permet d'améliorer les performances sportives.
Qui sont les sportives remarquables du 21e siècle ?
Il y en a sans doute aux Jeux Olympiques un nombre important. Mais pour le 21e siècle, j'en citerai trois. Deux dont vous avez fait le portrait, sur lesquels je ne m'étendrai pas parce que vous avez fait un portrait spécial dessus, derrière Toutoulou et Elena Mayer. Une que vous n'avez pas choisie dans vos portraits, qui est une athlète états-unienne, qui s'appelle Simone Biles, qui est une gymnaste, sans doute une des gymnastes noires américaines les plus médaillées de l'histoire des JO, qui a aussi la particularité d'avoir quitté les compétitions pour deux raisons, parce qu'elle a été agressée sexuellement par le médecin de l'équipe des États-Unis et que du coup, ça l'a mise dans une position très inconfortable car c'est elle qui a dénoncé son agresseur. Et d'autre part, parce que la pression sportive a provoqué chez elle des troubles mentaux qu'on appelle des pertes de figure qui l'ont empêchée de continuer à pratiquer son sport. Et j'en citerai deux autres qui sont souvent moins connues. Enfin, en tout cas, ce sont deux sœurs, mais il y en a une qui est surtout engagée dans le monde du sport. Ce sont deux nageuses syriennes, Yousra et Sarah Mardini, qui ont fui la guerre en Syrie et qui ont intégré l'équipe des Jeux Olympiques des réfugiés. Et l'une des deux, Yousra, est championne de natation depuis les Jeux Olympiques de Rio de 2016.
Quel est l'avenir des femmes aux Jeux Olympiques et dans les sports ?
Alors, l'avenir immédiat, c'est d'abord d'être aussi nombreuses que les hommes à concourir aux Jeux Olympiques de 2024. Et puis, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que bientôt, elles aient une place encore plus importante que celle des hommes aux Jeux Olympiques, je pense.
Merci Véronique Serva et merci Adjaretou et Niagale. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
C'est quoi ?
Et vous savez ?
À toi, président Douxaga.
Venez, venez danser.
Oh, tu fais comme
la Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer.
Y a aussi le pain.
On fait ça, mais on t'a volé. Ici, c'est la zone de Gaulle. Bikini, Gilly, les
balles. Jury, Mado.
Regardez comment on maîtrise le vrai. Tous les drapeaux sont levés. Africa, on est les tiens. On est toujours debout, on n'est jamais fait.
Maguidola de Los Angeles. Junior Dollar.
Chuka.
fatigué, faut jouer. Nous, on est là.
On revient d'écouter les Kujimato. C'est une chanson connue en Côte d'Ivoire pendant la Coupe d'Afrique. Tout de suite, on écoute le portrait des athlètes Marie-Zosé Perk, puis Elena Meyer et Deratu Tulu, réalisé à partir de la visite de l'exposition sur les Jeux Olympiques. On écoute le premier portrait de Marie-Josée Perk.
Nous allons vous présenter Marie-Josée Perk. Elle est galopienne et elle pratique la course. Elle participe aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et elle gagne la médaille d'or sur 400 mètres et 200 mètres. Elle est le symbole des femmes qui gagnent aux Jeux Olympiques et dont on ne parlait pas assez.
Sur la photo du musée, on la voit courir. Elle est concentrée sur la course. Elle porte un habit de sport bleu qui indique l'année et le lieu des Jeux. Elle se concentre sur son objectif. Elle donne tout pour pouvoir gagner. Ses muscles sont contractés. Ce qui me touche chez Marie-Josée Perk, c'est son effort, son courage, sa volonté, sa capacité à courir vite.
On écoute maintenant le deuxième portrait de Deratu Tulu et Elena Meyer.
Les deux femmes s'appellent Deratu Tulu et Elena Meyer. Elena Meyer vient d'Afrique du Sud et Deratu Tulu vient d'Éthiopie. Elles sont championnes des courses à pied en 1992.
Deratu Tulu a gagné la finale des 1000 mètres féminins et Elena a terminé deuxième à la fin de la course. Les deux femmes on fait un câlin pour montrer qu'elles sont comme des sœurs. C'est un symbole d'amitié entre les peuples, car en Afrique du Sud, il y a eu de l'apartheid pendant laquelle les Noirs et les Blancs étaient opposés.
Sur la photo, il y a un grand drapeau et un plus petit. Il représente les drapeaux de 10 sportifs réunis ensemble
place
grâce
à
au sport.
La deuxième interview, Eva Barry et Maïmouna Sidibé. Vous allez nous parler de votre relation au sport.
Bonjour.
Est-ce que tu fais du sport?
Oui.
Lequel et où?
Au basket.
Quel est ton sport préféré et pourquoi?
Mon sport préféré est basket.
Quelle est la dernière fois que tu as fait ton sport préféré?
Vendredi et samedi.
Avec qui as-tu joué?
Avec Niakali.
Pourquoi aimes ces sports?
Depuis quand j'étais petite.
Quel sentiment ou sensation sens-tu quand tu joues?
Quand j'entrais de jouer au basket, j'ai content et j'ai crié, c'est tout.
Merci Maïmouna.
Merci Niakali.
Merci Eva et Maïmouna. C'est la fin de notre émission où en sont les femmes aux Jeux Olympiques. Merci à Djariatou, Lina, Niagale, Maïmouna, Eva et un grand merci à moi aussi. Et un très grand merci à Madame Véronique Servante. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Antiracisme d'histoire sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Anita, votre présentatrice. Je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de IPDSA au collège Robert Doisneau dans le 20e arrondissement. Autour de l'exposition Olympisme, une histoire du monde au Musée national de l'histoire et de l'immigration.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler des Jeux olympiques et de l'antiracisme. Au programme d'aujourd'hui, pour en parler, nous accueillerons Véronique Serva. Nous écouterons ensuite le programme de l'athlète Jesse Owens, Jean Carlos et Tommy Smith. C'est parti pour Antiracisme d'histoire.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
C'est l'heure de l'interview. Bienvenue à nos journalistes Sarojane et Fares. Vous recevez Véronique Derbon. Vous allez nous parler des questions anti-racisme aux Jeux olympiques.
Nous sommes Sarojane et Fares.
Merci de votre présence. Parmi nous allons vous poser des questions autour des questions anti-racistes aux Jeux olympiques.
Qu'est-ce que étaient les Jeux anthropologiques ?
Bonjour et merci pour cette première question. Alors les Jeux anthropologiques, ce sont des Jeux qui se sont déroulés en 1904 dans la ville de Saint-Louis aux États-Unis, en parallèle d'une exposition universelle, parce que dans la première partie de l'histoire des Jeux olympiques, il y avait des compétitions sportives qui se déroulaient. Les compétitions sportives se déroulaient en parallèle d'expositions universelles. Et donc là, en fait, ces Jeux de Saint-Louis, il y a très peu d'Européens qui sont présents, parce que c'est très loin d'aller aux États-Unis à l'époque et tout le monde ne peut pas prendre l'avion. Par conséquent, c'est essentiellement des sportifs états-uniens qui sont présents. Et l'idée de ces Jeux anthropologiques organisés à côté des compétitions olympiques, c'est de faire concourir des personnes issues de peuples amérindiens, de peuples asiatiques, de peuples africains, et de mesurer leur performance. Alors évidemment, ils n'ont jamais forcément pratiqué de sport, par conséquent, que ce soit sur la course, sur l'endurance ou sur les épreuves de force qu'on leur fait passer, ils enregistrent de très piètres performances. Et en fait, l'idée qui se cache derrière ces jeux anthropologiques, c'est pour les Blancs de prouver leur supériorité sur les autres peuples. Donc ce sont des jeux qui ont une vocation explicitement raciste, à montrer la supériorité de la race blanche, entre guillemets, sur les autres peuples.
Qui est Jesse Owens ? Pourquoi est-il connu ?
Alors, Jesse Owens, c'est un sportif, lui aussi, états-unien, qui a une autre particularité, c'est d'être noir, donc d'être africain-américain. Il est connu parce que il a participé aux Jeux de Berlin en 1936, qui étaient des Jeux organisé donc dans la capitale de l'Allemagne, qui était à l'époque dirigée par Adolf Hitler. Et en fait, Hitler a utilisé les Jeux olympiques comme une espèce de mise en spectacle de son pouvoir, raciste notamment. Et Jesse Owens a, entre guillemets, défié, déjoué les pronostics d'Hitler, parce qu'il a remporté 4 médailles d'or en athlétisme, au 100 mètres, au 200 mètres, au saut en longueur et au 4 fois 100 mètres. Donc c'est le relais. Par conséquent, évidemment, on a tiré comme conclusion des victoires de Jesse Owens qu'il prouvait que Hitler avait tort dans ses théories raciales. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière l'histoire de Jesse Owens, et c'est aussi pour ça qu'il est passé à la postérité, il a tissé une histoire d'amitié avec un de ses concurrents, au saut en longueur qui s'appelle Luz Long, qui a fait le salut nazi sur le podium où qu'il partageait avec Jesse Owens. Et en fait, Luz Long a péri pendant la Deuxième Guerre mondiale et a demandé à Jesse Owens d'adresser sa dernière lettre à son fils. Et pour retourner un petit peu le propos, il se trouve que Jesse Owens, en tant que noir américain, victime de la ségrégation dans son propre pays, n'a pas été reçu par le président des États-Unis après ses victoires. Donc ça montre un petit peu la complexité de la trajectoire de cet athlète exceptionnel.
Pourquoi Tommy Smith et Jean Carroll ont-ils levé les poings sur le podium ? Quelle est leur histoire ?
Alors, ils ont levé le poing parce qu'en 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, ils ont été classés premier et troisième à la course du 200 mètres. Donc évidemment, ils ont levé le poing. On pourrait croire qu'ils ont levé le poing parce qu'ils avaient gagné des médailles. Mais en fait, ils ont levé un poing particulier. D'abord, ils n'ont pas levé le poing de la même main. Il y en a un qui a levé le poing de la main droite et l'autre le poing de la main gauche. Ça, parce qu'en fait, ils ont recouvert chacune de leurs mains d'un gant noir pour dénoncer le racisme dont étaient victimes les Noirs américains aux États-Unis, alors qu'ils remportaient des médailles pour leur pays. Ils n'ont pas fait que lever le poing, d'ailleurs. Ils sont aussi montés sur le podium en étant déchaussés pour rappeler l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et la pauvreté des Africains-Américains à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et enfin, ils ont baissé la tête au moment des hymnes en signe de contestation pour dénoncer le racisme dont étaient victimes leurs compatriotes noirs dans leur pays. Et ensuite, ils ont été exclus des compétitions sportives, ils ont été punis.
Pourquoi la Corée du Nord et la Corée du Sud ont-elles défilé ensemble sous le même drapeau en 2000?
Alors, l'histoire de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, ce n'est pas forcément une histoire d'antiracisme ou de racisme. C'est un seul pays qui a été coupé en deux après une guerre qui a eu lieu au début des années 50. Donc, il y a eu une Corée du Nord et puis une Corée du Sud qui ne s'entendaient plus politiquement. L'une était sous domination de l'URSS et l'autre sous la domination des États-Unis. Et donc, en fait, en 1988, la Corée du Sud a organisé les Jeux Olympiques à Séoul et la Corée du Nord a refusé de s'y rendre. Donc, on voit qu'ils étaient extrêmement brouillés. Et paradoxalement, voilà, comme les Jeux Olympiques sont un peu le reflet aussi de l'évolution des relations des pays entre eux dans le monde, en l'an 2000, en fait, ils ont défilé sous le même drapeau, donc c'était signe qu'ils s'entendaient mieux, mais leurs athlètes ont concouru pendant les Jeux sous deux drapeaux différents. Et en 2018, pour les Jeux Olympiques d'hiver, il y a eu une équipe unifiée avec des athlètes de Corée du Nord et de Corée du Sud qui a participé aux Jeux pour les épreuves d'hockey sur glace sous le même drapeau. Donc ça signifie que petit à petit, les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud s'améliorent.
Merci Véronique Servant. Et merci Sarojane et Fares. On arrive dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, debout, une rose à la main. Non,
quand plus rien ne le retient. Dans ces love stories, dans ces love stories, dans ces love stories, ces love stories. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer, j'ai été trop bête. Je t'en prie, arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi. Personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story.
On vient d'écouter Love Story de Indira. L'émission anti-racisme d'histoire continue sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on écoute le portrait des athlètes Jesse Owens et Tommy Smith et Jean Carlos, réalisé à partir de la visite de l'exposition sur les Jeux olympiques. On écoute le premier portrait d'athlète, le portrait de Jesse Owens.
L'athlète s'appelle Jesse Owens. C'est un coureur américain. Il a participé aux Jeux olympiques en août 1936 à Berlin en Allemagne et il a couru 100 mètres en 10 secondes.
Il a gagné 4 médailles d'or en athlétisme. Il a rendu fier les Africains et les Afro-Américains. À cette époque, les dictateurs Hitler étaient au pouvoir et ils pensaient que les personnes blanches étaient plus fortes que les personnes noires.
Sur la photo, il y a écrit USA sur son t-shirt. Il fait une salut de la main et il est sur le podium. J'aime sa façon de tenir une fleur dans sa main et ce qu'il porte.
On écoute maintenant le deuxième portrait de Jean Carlos et Tommy Smith.
Thomson et Johnny Carlos sont américains et ils participent aux Jeux olympiques en 1968.
Ils ont gagné une médaille d'or et d'argent
sur le podium, ils lèvent la main droite pour dire qu'ils sont contre la ségrégation aux États-Unis. La ségrégation, ça veut dire que les personnes noires et les personnes blanches n'ont pas les mêmes droits.
Le point levé montre un lion, les Black Panthers luttant contre le racisme.
C'est la fin de notre émission Antiracisme d'histoire. Merci à Véronique Serfon, à Fares, à Tensin Chimi, à Jumanara, à Saroujane et à moi, Anita. Merci à Rosalie pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.